Vous êtes bien sur Radio Bartas. Voici l'émission Agriculture ou Bartas. L'agriculture. L'agriculture a-t-elle encore un avenir dans notre territoire? Et lequel? Cet avenir, imaginons-le, créons-le, partageons-le dans Agriculture ou Bartas. La seule émission qui boude les Bartas pour ouvrir un espace d'expression sur l'agriculture et les initiatives qui s'y passent. Bonjour à tous, c'est François, bienvenue dans ce second numéro d'Agriculture ou Bartas. C'est de laine dont nous allons parler aujourd'hui, la laine, une matière qui fut très longtemps utilisée pour se vêtir, s'abriter, et qui constitua une ressource importante pour les éleveurs de moutons, bien plus que la viande. Cependant, à partir du 19e siècle et de la révolution industrielle, de gros élevages commencèrent à se constituer en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande, qui furent à l'origine d'un développement important de la production de laine, avec pour effet d'accentuer la standardisation des races de moutons utilisées, au contraire de l'Europe où perdure une très grande variété. Ainsi, progressivement, l'usage de la laine va décliner, mais c'est surtout à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'essor fulgurant des fibres synthétiques, que la laine va devenir un produit marginalisé, moins adapté aux besoins modernes, plus difficile à entretenir, connoté d'une image ringarde, bien que ses propriétés restent pourtant très intéressantes. Parallèlement, au niveau européen, depuis 2002 notamment, et avec l'aval des représentants des organisations professionnelles agricoles, la laine n'est plus reconnue comme un produit agricole, mais comme un sous-produit, pour ne pas parler de déchets, ou comme un produit industriel à partir du moment où la laine est nettoyée. Tout ceci a eu pour effet d'orienter l'élevage essentiellement sur la production de viande. Les grandes filatures présentes en Europe ont pour la plupart fermé. La laine est devenue un produit sous-payé, à tel point que pour les éleveurs, c'est devenu presque un soulagement de voir la laine récupérée par un marchand. On se débarrasse de la laine, on n'en prend plus vraiment soin quand on tond les brebis. Bref, on a oublié les propriétés et les valeurs de cette matière. Marie-Thérèse Chopin, bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'avoir accepté mon invitation sur ce plateau. Vous animez l'atelier des laines d'Europe, association que vous allez nous présenter dans un instant. Et vous allez aussi nous éclairer sur les modalités de valoriser les laines localement. Mais avant, devant ce constat dressé très rapidement, on a envie de dire que la filière laine n'a plus vraiment d'avenir, ici mais plus largement en Europe. Et pourtant, vous êtes engagé avec d'autres à rebâtir une activité autour de la laine. Alors, pouvez-vous nous dire pour quelles raisons vous êtes lancé dans cette aventure? Et peut-on raisonnablement penser que la laine puisse devenir une filière de production dynamique?
On doit dire quand même que la situation semble plus favorable actuellement qu'elle pouvait l'être il y a 30 ans. Quand on a créé l'association L'Atelier, donc en 1989, nous étions quelques-uns, peu nombreux, quelques éleveurs, principalement de quelques-uns de moutons, mais aussi de chèvres angora, de lapins, d'alpaga, quelques artisans qui travaillaient la laine à ce moment-là, tisserands surtout, et puis quelques petites entreprises aussi. On n'était pas très nombreux, les éleveurs de moutons étaient très très peu intéressés par la matière déjà à cette époque. Et du coup, c'était un peu militant, on va dire, de parler de laine parce qu'on n'était quasiment pas écoutés. Simplement, ce qui se trouve, c'est que dans ces métiers, les gens sont souvent passionnés par ce qu'ils font. Donc en fait, c'est ce qui a un peu créé l'enthousiasme de cette association. Ça a commencé tout petit, et puis petit à petit, on a quand même renforcé un petit peu le réseau. Il y avait encore, à cette époque, beaucoup de petites filatures qui fermaient, faute de successeurs, faute de rentabilité, faute vraiment d'intérêt. Mais on doit dire qu'on a passé une espèce de cap pendant dans les années, on va dire, 90-2000, où ça s'est stabilisé. C'est le déclin un peu arrêté au niveau des petites filatures. Après, les éleveurs de moutons n'étaient toujours pas très intéressés par la question. On doit dire que l'intérêt, il vient beaucoup maintenant de plutôt du grand public. On va dire qu'on a sauté les étapes intermédiaires, que les gens réclament maintenant des matières plus naturelles, des ressources renouvelables, et tout ça fait que maintenant, il y a un peu une demande. D'accord. On se trouve dans une situation paradoxale, c'est que les éleveurs, eux, n'ont pas encore tout à fait accepté l'idée que la laine peut être une matière de valeur. D'accord. Ou du moins, ils voient ça trop compliqué.
Et au niveau de l'atelier, alors je précise, atelier, ça veut dire Association Textile Européenne de liaison d'innovation, d'échange et de recherche. Mmh. Donc vous vous adressez surtout aux éleveurs ou au grand public ?
Non. En fait, avec l'association, on essaye d'avoir l'ensemble de la filière. C'est-à-dire parmi les membres, les adhérents de l'atelier, il y a des éleveurs de toutes sortes, il y a des tondeurs, il y a des matelassiers, il y a des gens qui ont des petites filatures, il y a des tisserands, des feutrières, des artistes textiles, des musées du textile, des fermes pédagogiques, des historiens qui s'intéressent à la question. C'est très large. Et c'est ça l'intérêt. C'est en fait un des problèmes qu'il y a eu, c'est vraiment que la filière s'est complètement déstructurée. Mmh. Aucun lien entre les éleveurs. Donc, le destin de leur matière leur échappait complètement. Ils n'avaient même pas une idée de ce que ça pouvait devenir. Et parallèlement, comme il y a eu beaucoup d'industrialisation, les industriels ignoraient aussi complètement les conditions de production des éleveurs. Donc l'atelier, c'est faire le lien entre tous ces éléments de la filière et en plus faire la promotion à nouveau auprès du grand public et voilà, beaucoup D'accord. plus largement.
Donc vous accompagnez des éleveurs justement aussi qui ont la volonté de développer une petite filière locale.
Oui.
Alors Marie-Thérèse, vous n'êtes pas la seule à penser que la laine est un avenir. Nous avons sur notre territoire aussi des éleveurs, des artisans, des porteurs de projets qui ont envie de valoriser la laine. Alors leurs activités sont aujourd'hui encore assez marginales. Les initiatives sont éparpillées, isolées sur le territoire. Toutefois, on sent quand même qu'émerge la volonté d'aller plus loin dans la structuration d'une petite filière locale. Alors je vous propose qu'on écoute le témoignage de quelques-uns d'entre eux. Ces témoignages ont été recueillis le 7 octobre dernier à l'occasion d'une journée de formation et de réflexion que vous avez d'ailleurs animée, Marie-Thérèse. Mmh. Cette journée, je précise, a été organisée conjointement par la LODEAR, l'association lozérienne pour le développement de l'emploi agricole et rural, le parc national des Cévennes et les démarches terra rurales conduites sur les communautés de communes du pays de Florac et du Haut-Tarn, Cévenol-Tarnon-Mimant et de la Cévennes des Hauts-Gardons, pour répondre justement aux besoins exprimés par ces personnes. Voilà, je vous propose qu'on les écoute.
Bonjour, alors je m'appelle Léna, ça tombe bien puisque je travaille la laine depuis 3 ans. Je suis installée comme auto-entrepreneur et je propose surtout des animations pour découvrir le matériau laine, autant dans des manifestations culturelles grand public que là plus particulièrement avec des classes de scolaires. Alors je connais des éleveurs localement autour de moi, puisqu'en Lozère c'est un petit territoire, on connaît facilement ses voisins. Donc ponctuellement j'ai pu me faire confier des échantillons de laine, de toison pour voir ce qu'on pouvait en faire. J'ai pas d'activité de production vraiment concrètement en ce moment, donc ça me permet pas de prolonger ou de proposer des projets à des éleveurs autour de moi pour le moment.
D'accord. Et du coup, quelles sont vos envies pour la suite et qu'est-ce que vous pouvez attendre sur le territoire ?
Moi, c'est plus l'aspect pédagogique que je travaille en ce moment, mais d'avoir été artisan, d'avoir travaillé un peu en production, en animation, j'aimerais pouvoir échanger avec des personnes qui sont intéressées et voir ce qui peut se mettre en place à l'échelle de la Lozère, autant pour des projets de création que pour des gens qui voudraient faire de l'accueil à la ferme dans le cadre d'agrotourisme. Enfin, voilà, c'est à définir, mais beaucoup d'envie en tout cas.
D'accord. Aux personnes qui ne croient pas trop au devenir de la laine, qu'est-ce que vous auriez envie de leur répondre ?
Ah, alors, la laine, l'homme a une très très longue histoire avec le mouton qui remonte à des millions d'années. C'est un animal qui a été considéré pendant des siècles pour sa capacité à porter la laine. Et on est ici en Lozère, dans un paysage qui a été façonné par l'élevage du mouton. Donc je pense que ça a vraiment un sens ici pour la population qui vit en Lozère de se réapproprier ce patrimoine. Autant que ce soit au niveau des installations, que aussi encourager et consommer des produits en laine. C'est un produit écologique, durable, au contraire des fibres synthétiques. Voilà.
Alors, je suis donc dans une commune des Cévennes, je suis agricultrice. Mon activité principale, c'est la châtaigne et l'accueil. Et j'ai pris quelques brebis au départ pour débroussailler. Puis en plus, maintenant, je trouve que c'est dommage de ne pas profiter de leur laine. Alors au niveau du projet sur la laine, c'est plutôt effectivement savoir travailler la laine. Déjà, première étape avec après la tonte, comment faire. Donc déjà, j'ai tout ça à apprendre. Et ensuite, ça serait plutôt pour faire du filage et puis tricotage. Je pense qu'il y a quelques années, dans les années 90, on ne croyait pas non plus aux Cévennes. Donc je pense que si, il faut croire en la laine parce qu'on a un beau potentiel et puis on a une belle matière première.
Je m'appelle Christina, donc je suis agricultrice à Florac. J'élève des brebis et des lamas. Et donc depuis plusieurs années, j'essaye de transformer donc, la laine de mes animaux en fil et en feutre. À titre individuel, j'essaye de développer, pouvoir vendre des produits finis en laine, donc en feutre, des chapeaux ou des pulls en laine. Et l'idée, c'est de se regrouper avec d'autres artisans pour animer un atelier donc collectif, à la fois faire des ateliers pédagogiques pour apprendre aux gens à transformer la laine et aussi pour se partager un peu les charges pour la production et pour la vente. Pourquoi est-ce qu'on doute donc de la valeur de la laine? Parce que souvent on pense que la laine ça gratte, c'est pas agréable à porter. Donc tout dépend effectivement les variétés de laine et la façon qu'elle a été préparée, travaillée. Pourquoi on peut douter de la laine? Peut-être parce qu'on pense que ça se lave pas ou ça feutre. Effectivement, il y a des précautions à prendre. Après, c'est une matière naturelle qui respire.
Voilà. Bonjour, je me présente, Madame Mathé, Audrey. Je suis agricultrice en Auvergne-Viande. Diversification apiculture et création d'une aire naturelle. Et en complément, nous aimerions travailler la laine et faire un projet. Alors, travailler la laine de A à Z, donc de la tonte jusqu'au produit fini, donc de fil à tricoter, voire du fil pour faire du tissage, et donc pour que les gens puissent avoir une grande gamme de produits à faire chez eux, ou plus gros s'il faut, mais on préfère faire du local, voire même du bio. Alors nous avons un troupeau de brebis, mais qui n'est pas suffisant par rapport aux machines que nous avons trouvées. Il nous faudrait quand même des laines d'ailleurs pour rentabiliser, on va dire, les machines.
Du coup, qu'est-ce que vous pouvez attendre au niveau du territoire? C'est une organisation, par exemple, pour récolter de la laine chez des éleveurs aux alentours, mutualiser peut-être des outils de production?
Moi, je dirais qu'au cas où nous aider à monter carrément le projet de filature, nous aider peut-être pour le terrain, nous aider à mettre en place tout ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, sensibiliser les personnes autour de nous à mieux travailler la laine, à faire attention à ce produit-là, qui est quand même naturel chez les brebis. Et à ce moment-là, on pourrait faire quand même un produit extraordinaire à la fin, alors que habituellement, si on le bâcle, on le jette ou ça part malheureusement en Chine. Et c'est ça qui est dommage, surtout qu'on est quand même en Cévennes et on a de quoi valoriser cette laine.
D'accord. Alors justement, aux personnes qui ne croient pas vraiment au devenir de la laine, qu'est-ce que vous auriez envie de leur répondre aujourd'hui?
Que s'il veut penser à l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants, il faut déjà penser à prendre soin de ses animaux de A à Z. Et donc déjà, bien les alimenter et fait qu'il y a de la qualité au niveau de la laine. Et après, on valorise en plus de ces animaux, la laine, qui de là va faire des produits pour, au lieu de cultiver du synthétique qui est en train de polluer toute la planète, et que là on a un produit sur place et qu'on peut faire quelque chose de génial, et au contraire qui est 100% naturel, 100% bien pour tout le monde. Et donc c'est bien de penser à l'avenir quand même de nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite.
Voilà, quelques témoignages pleins d'entrain pour illustrer cette dynamique. Alors avant de poursuivre plus en détail sur le sujet, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on va s'écouter une petite tarentelle italienne. Thank you. Vous êtes toujours dans l'émission Agriculture Oubartas. Alors, Marie-Thérèse, entrons plus en détail dans le sujet désormais. Comment s'y prend-on pour valoriser la laine ? On sait qu'il y a différents usages possibles. On peut faire du fil pour confectionner des vêtements, on peut faire des matelas, on peut faire des produits d'isolation. Quelles sont au préalable les principales questions à se poser ? Quelles sont les conditions à réunir ?
Alors, la première chose qu'il faut se dire, c'est que ça va prendre du temps. D'abord, on a un impératif qui est assez simple, c'est la tonte. C'est une fois par an pour la plupart des races. Quelques-unes ont les tons deux fois par an, mais c'est rare. La plupart du temps, donc on sait que la tonte, elle a lieu à un certain moment. Ici, j'imagine, au printemps. Et donc, ben voilà, il faut s'organiser pour qu'au moment où on a ce tas de laine, on ait de quoi... le trier, de quoi l'emballer, déjà une première étape très très importante. Il faut savoir que ben, si on n'utilise pas la laine relativement rapidement, si on la stocke mal en particulier, si on laisse les ballots sous la pluie, ça abîme quand même vraiment la laine. Donc il y a tout un soin qui est apporté au début de la filière. Et il faut savoir que tout ce qu'on ne fait pas bien au début, on va avoir vraiment du mal à le rattraper après. Si par exemple, quand on met les toisons dans les sacs, on laisse de la paille, des matières végétales, plein de crottes, etc. avec, ou pire, les bouteilles de bière ou tout ce qu'on peut trouver au moment où on fait de la tonte, eh ben, ça va quand même poser problème aux étapes ultérieures. Donc voilà, très important, chaque geste aura une conséquence sur la suite. Voilà, ça c'est la première étape.
D'accord, donc un gros travail de sensibilisation déjà des éleveurs au départ.
Oui. C'est là le plus gros souci. En fait, il y a dans les études agricoles, pour les éleveurs de moutons en particulier, on ne parle jamais de laine. Donc, il y a une ignorance complète. Comme il y a eu très peu de transmission familiale, c'est un peu rarissime maintenant que les gens puissent transmettre à leurs propres enfants. Et ben, du coup, c'est l'ignorance. C'est pas qu'on veut mal faire. C'est surtout qu'on ne sait pas. Et en fait, il y a quelques gestes simples, des aménagements du ce qu'on appelle le chantier de tonte, le moment où on tonte, que ça soit propre, qu'on balaye la place entre deux tontes, qu'on ramasse bien les toisons. C'est hyper important. Et il faut commencer par ça, parce qu'une mauvaise matière, ça ne fera jamais un beau produit.
Alors après, j'imagine qu'en fonction des races de moutons, des variétés de laine, on va s'orienter sur différents produits.
Voilà. Alors après, c'est très déterminant. suivant, en fait, il y a une immense diversité de races de moutons et de, donc de toisons différentes. On a monté, juste pour expliquer, une exposition où on présente une centaine de races de moutons de tous les pays d'Europe. Et pour chaque race, il y a la photo du mouton, des explications sur son élevage, un grand sac de laine brute de toison et un produit qui est fabriqué avec. Et là, on peut très bien se rendre compte qu'on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quelle laine. On a des laines qui sont rudes, grossières, longues. Avec ces laines-là, on va faire des tapis. On a des laines qui sont, comme on dit, gonflantes, à ressort. Des laines très... Quand on les presse, elles résistent, on va dire. Ça, ce sont des laines pour faire des matelas, des coussins, des oreillers. Et puis, on a des laines plus fines qui peuvent servir à tricoter des pulls, à faire des vêtements. Et des laines beaucoup, beaucoup plus fines, comme les mérinos, qui, elles, sont plus destinées à faire de la layette, des vêtements qu'on porte directement sur la peau. Mais alors, il ne faut absolument pas prendre la laine mérinos fine pour se faire un matelas. Le lendemain, vous aurez mal au dos, c'est tout plat. Ni surtout pour faire un tapis, parce qu'il y aura des trous rapidement. Et inversement, pas prendre la laine grossière, on dirait par exemple les laines corses, sardes, des choses comme ça, pour se faire une écharpe, parce que c'est insupportable. Et là, on peut dire que ça gratte, hein, franchement.
Alors ici, dans notre région, on a beaucoup de BMC, les blanches du Massif Central. C'est une laine qui a plutôt du ressort, donc qui serait plus utilisée, par exemple, pour faire des matelas.
Matelas, couettes, futons, oreillers, tout ça. Dans l'association Atelier Laine d'Europe, il y a un adhérent important qui est Ardelaine, qui n'est pas tellement loin d'ici, en Ardèche en tout cas. Et eux, on ramasse effectivement beaucoup de laine BMC qu'ils utilisent en confection de matelas, en couettes, etc. Et c'est une SCOP donc, qui a été développée, ça fait presque 40 ans. Et c'est en expansion, ils ont réussi à créer quand même 40 emplois dans un tout petit village avec cette activité. Donc après, ça a commencé tout petit, ça s'est développé lentement, il a fallu convaincre les gens de redormir sur des matelas et tout, mais il y a un vrai débouché là-dessus.
Donc justement, si on revient un petit peu sur la constitution d'une filière locale, par exemple, comment on s'y prend pour monter une filière locale? Quels sont les points clés? Quels sont les écueils à éviter?
Je pense qu'il faut déjà se donner un peu, que les gens se rencontrent, justement, les échanges entre éleveurs et les quelques artisans, comme on a entendu tout à l'heure. Qu'ils se rendent compte, les rencontrent les uns les autres, qu'ils échangent sur les nécessités, les difficultés que chacun a. Des fois, c'est pas facile, la tonte, hein, on se trouve dans des périodes de pluie, on n'a pas des locaux bien aménagés, même si on vous dit il faut bien faire, c'est pas toujours facile. Parfois, c'était bien s'il y avait un peu plus de monde, par exemple à la tonte. Le gros souci de l'agriculture et de l'élevage, c'est que le nombre de personnes est restreint. Avant la tonte, c'était une grande fête. Tout le monde participait, les voisins enfin tournaient de l'un à l'autre. Donc c'était possible de faire ça bien, tranquillement. Maintenant, c'est vrai que comme c'est conçu comme une opération un peu technique, il y a un tondeur très qualifié qui vient, mais il doit aller vite, il est payé à la bête. Donc on n'a pas la même disponibilité. Donc si on retrouve aussi des fois des rythmes un peu plus tranquilles, on pourrait déjà beaucoup mieux faire à ce... Et les artisans, par exemple, pourraient aussi participer, venir voir comment ça se passe et comprendre aussi pourquoi c'est des fois difficile d'avoir des toisons impeccables.
Donc il y a besoin finalement que tous les maillons de la chaîne soient bien sur la même longueur d'onde pour que ça fonctionne.
Oui, qu'ils soient bien coordonnés. Et puis ça va prendre du temps. La première année, on ne réussira pas tout parfaitement. Hein. Il y a des améliorations à faire. Le problème, une fois qu'aux étapes suivantes, c'est que les moyens techniques, hein, c'est-à-dire, par exemple, pour faire du fil, bien sûr, on peut le faire à la main, avec un fuseau, avec un rouet pour des petites quantités. Après, il y a un certain volume, il faut des moyens techniques, hein, des filatures, donc des machines. Il y a encore en France 7 ou 8 petites filatures qui peuvent travailler la laine, comme ça, en relativement petit lot. Donc il y a la dame qui était à la formation là, qui pense en installer une, qui serait très intéressante. Et par contre, il faut des fois faire quand même des centaines de kilomètres pour trouver ces usines. Avant, il y en avait dans toutes les vallées des Pyrénées, des Alpes, du Massif central. C'était toujours installé sur des cours d'eau, puisque ça utilisait la force hydraulique. Maintenant, effectivement, on est quand même plus dispersés. Alors, c'est toujours un peu le problème entre local, on veut tout faire sur place, et puis une optimisation quand même de la transformation de la laine. Des fois, il faut se dire que bon, il faut quand même faire quelques centimètres. Après, ça arrive une fois par an. Donc, c'est non plus pas comme si on devait porter son fromage, ou je ne sais pas, tous les jours ou toutes les semaines, quelque part. Une fois par an, il faut bien organiser le transport de laine si c'est un peu plus lointain.
Voilà. D'où l'intérêt de se regrouper justement entre éleveurs pour faire l'ensemble de ces tâches.
Tout à fait, tout à fait. Et là, ça serait vraiment intéressant. Il faut prendre le temps de discuter des produits qu'on peut faire, des filières techniques qu'on doit utiliser. Le tricotage, le tissage, ça se passe pas de la même façon. Il y a une technique qui est intéressante, qui s'est bien redéveloppée les derniers temps, qui est le feutre, qui demande, elle, quasiment aucun moyen technique, ses mains, éventuellement aidé d'une petite machine, mais c'est relativement simple, ça permet de faire des essais avec différents types de laine, et ça c'est aussi très bien, très intéressant. Donc voilà, il faut combiner un petit peu les différentes approches très manuelles, et puis peut-être un peu plus organisées techniquement.
D'accord. Si on parle débouchés, est-ce qu'on a plus des débouchés locaux ou est-ce que c'est des débouchés vraiment bien spécifiques ?
Oh, y a beaucoup de possibilités. Moi, je dirais déjà que si les éleveurs eux-mêmes qui râlent parce qu'ils ne vendent pas bien leur laine, ils imaginaient dormir sur un matelas en laine ou même se mettre un bonnet de laine sur la tête pour être un peu convaincant, disons, du bienfait de leurs produits, ça serait déjà génial. Hein. Ça, c'est le niveau local. Après, chaque laine a sa spécificité. Il y a des produits qui ont été développés avec des identités très fortes. Un exemple que je peux citer vite fait, c'est un travail qui a été fait avec une race plutôt menacée. Il reste 1000 bêtes de cette race, la brebis brigasque dans les Alpes-Maritimes, brebis laitière, brebis à très long poil, laine très rude, mise sur le fumier directement après la tonte parce que les gens ne savaient absolument pas quoi en faire les dernières années. Et on a réussi à mettre en place une organisation de collecte de cette laine. Après, évidemment, on est allé un petit peu plus loin. On est donc les Alpes-Maritimes. On a pris un camion, on est allé en Sardaigne pour transformer cette laine parce qu'il y a là une usine qui transforme les laines sardes qui sont très proches. Le retour, ce sont des tapis très solides avec cette laine où on a utilisé comme motif des gravures d'une vallée, la vallée des Merveilles, où les troupeaux pâturent en été. Donc, il y a à la fois l'association d'un produit. Le tapis beau, etc., mais avec aussi tout l'élément culturel qu'il y a, l'histoire de ces vallées très anciennes, de pastoralisme. Et je pense que là, on peut vraiment développer dans beaucoup d'endroits des produits à identité forte, tout en utilisant des moyens techniques qui ne sont pas forcément locaux. C'est toujours un peu une dialectique entre les deux aspects. Et l'autre chose qui est hyper intéressante, c'est qu'il doit y avoir des échanges entre toutes ces initiatives.
D'accord. Alors, on a parlé d'envie, on a parlé d'organisation. Parlons un petit peu plus économie. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les éleveurs qui nous écoutent, peut-on vivre uniquement de la laine ?
Oh non, non, ça c'est même pas la peine de l'imaginer. Hein. C'est
donc
un complément.
Il faut être très clair.
Oui, tout à fait. En dehors des Australiens qui produisent des laines hyper fines, très très bien valorisées, non. Par contre, c'est un complément de revenus, et puis je dirais surtout, c'est une super belle image de l'élevage. C'est plus facile de parler des moutons, de l'intérêt du pastoralisme, de l'utilisation pour lutter contre l'embroussaillement ou des choses comme ça, en présentant la laine, l'utilisation de la toison, que des côtelettes. Hein, il faut quand même le dire. Après, par contre, la partie du revenu, elle reste majoritairement la viande ou le lait, hein, pour les laitiers. Hein, ouais.
D'accord. Alors Marie-Thérèse, après votre passage sur notre territoire, quel est un petit peu votre sentiment ? Vous pensez qu'on a les capacités de faire quelque chose d'intéressant ici ?
Ah ben bien sûr, oui. Il faut juste pas se faire d'illusions que ça va marcher comme ça, avec un petit claquement de doigts. Ça prend du temps, et ça demande des mises en place de relations, beaucoup d'échanges, et puis voilà. Hein? Mais c'est tout à fait possible.
D'accord. Ouais. Mais écoutez, Marie-Thérèse, merci d'être venue sur ce plateau. On vous souhaite bonne continuation. Je signale que vous avez participé aussi à une excellente émission de France Culture, Terre à Terre, qui a été diffusée, si je ne me trompe pas, en janvier 2013, et que l'on peut réécouter sur Internet, oui. Et qui permettra d'avoir des éléments d'information complémentaires. Voilà, en tout cas, si vous êtes convaincu par ou si vous souhaitez participer à cette réflexion plus largement, n'hésitez pas à vous faire connaître. Donc on va clore cette émission. Pour les rediffusions, je vous laisserai écouter la bande-annonce qui va suivre. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Agriculture ou Bartas, dont le thème portera, si tout va bien, sur les groupements d'employeurs en agriculture. Voilà, merci encore Marie-Thérèse.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. L'agriculture. L'agriculture a-t-elle encore un avenir dans notre territoire ? Et lequel ? Cet avenir, imaginons-le, créons-le, partageons-le dans Agriculture ou Bartas. Chaque semaine, pair, le samedi à 17h. Chaque semaine, impair, le mercredi à 10h. Agriculture ou Bartas ? La seule émission qui boude les Bartas pour ouvrir un espace d'expression sur l'agriculture et les initiatives qui s'y passent.